Ce projet podcast est un projet créé par l'ASBL de Podcast Factory.org et sponsorisé par Transforma Bruxelles Innovation Playground.
You're listening to the Podcast Factory.
Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, pour le retour, enfin me direz-vous, du podcast Midori Cast. Je rappelle, Midori, vert en japonais, cast pour podcast, un mot valise. Notre projet s'est mis en suspens, bien qu'il ne s'est pas arrêté, puisque le flux RSS est resté actif et en ligne. Vous l'avez remarqué, d'ailleurs, les écoutes n'ont jamais cessé, c'est ça qui est un beau compliment pour nous. Il a été suspendu parce que manque de temps pour faire des interviews avec les artisans et les personnes qui sont actives dans le milieu éco sollicitées pendant cette crise. Manque de temps et manque de capacité parce que finalement, mes partenaires avaient les mêmes déboires que moi, étaient fort occupés. Et parmi les partenaires, je retrouve Julie Bernard, l'entre-deux-herbes.
Bonjour.
Bonjour Julie. Alors, ça fait 6 mois, je crois qu'on essaye d'aligner nos agendas de ministre.
Oula, oui, ça fait longtemps.
Plus que 6 mois, oui. Je pense même. Et donc, on n'est pas au studio chez Transforma aujourd'hui, on est chez moi, à mon domicile, avec du matériel portable, donc le son sera peut-être un peu différent. Mais en tout cas, on est fiers et heureux de redémarrer nos rubriques Midori Cast par la rubrique L'Entre-deux-Herbes, avec des petits trucs et astuces pour faire les choses vous-même. Et on s'intéresse aussi aux herbes médicinales, aux plantes, puisqu'on le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas écouté les capsules précédentes, tu es herboriste.
Tout à fait, herboriste, aromathérapeute, gémothérapeute et je fais aussi de la cuisine sauvage et des cosmétiques naturels.
Et on rappelle que tu es diplômée, c'est important, parce qu'on n'est pas en train de faire ici des choses genre marabout sur un coin de table.
Oui.
On est vraiment dans du sérieux.
Ça pourra faire d'ailleurs l'objet d'un podcast futur parce que effectivement c'est un sujet qui est très sensible pour moi.
D'accord, mais je le sais, c'est pour ça un peu que je te lance mon petit clin d'œil. Alors, pour fêter nos retrouvailles, on va commencer. Chose n'est pas coutume, en général, on fait des annonces en fin de podcast, mais comme les gens nous ont manqué et t'ont manqué aussi, on va quand même faire un petit mot sur ton évolution depuis ces 2 ou 3 années où on a mis en suspens notre collaboration. C'est 2 ans, hein, 3 ans presque.
Oui, à peu près, c'est ça, voilà. À peu près 3 ans, l'âge de mon fils aîné, à peu
Alors,
près.
Alors, à l'époque, tu proposais déjà des ateliers. Oui. Est-ce que tu peux nous toucher un petit peu un mot sur comment évoluer ton activité? J'imagine qu'elle a d'abord été impactée par le Covid, comme tout le monde.
Tout à fait. Effectivement, j'ai dû arrêter mes ateliers collectifs et mes formations. Donc, j'ai un petit peu réfléchi ma manière de travailler. Et donc, j'ai un petit peu plus boosté les choses individuelles et à la carte.
D'autant que les gouvernements nous ont oubliés pour ce genre d'activité.
Clairement. Et donc, je continue aujourd'hui les ateliers collectifs et les formations collectives. Mais je mets un petit peu plus l'accent aujourd'hui sur les consultations individuelles. Donc, j'ai commencé ça il y a quelques temps. Et je fais aussi de plus en plus de formations et d'ateliers à la carte. Et donc là, c'est vraiment en fonction des besoins et des envies des personnes qui forment parfois un petit groupe, parfois pas. Et je crée des ateliers et des formations pour ces personnes-là.
Oh, la carte, c'est vraiment du VIP, quoi.
Oui,
wow.
Tout à fait.
Alors, si je veux te consulter pour une consultation, comme tu dis, privée, c'est dans quel contexte, c'est dans quel cadre on te contacte? C'est pour nous aider à se mettre à la permaculture ou c'est pour nous
non,
aider à
Non, c'est vraiment
nous...
dans le cadre de soins de santé ou naturels ou de compléter des traitements qui pourraient exister en allopathie. Et donc, mon objectif, c'est vraiment de soutenir les personnes qui sont dans une démarche de soins naturels et de voir avec ces personnes-là comment intégrer des soins naturels à leur mode de vie ou à des problèmes de santé, tout simplement.
On est bien d'accord que tu leur apprends à être autonome dans le secteur.
Oui, tout à
tu
fait,
ne viens
tout
pas
à fait.
Faire comme un pharmacien, faire ses préparations chez eux à domicile
non,
à chaque
non,
demande.
Tout à fait. Donc ici, l'objectif, c'est généralement, il y a 1 voire 2 consultations. Pendant la première consultation, on fait un petit peu le point sur les besoins, les envies, s'il y a des problèmes de santé existants, s'il faut travailler sur ces problèmes de santé existants. Et parfois, une deuxième consultation est nécessaire pour ajuster les pistes de traitement qu'on pourrait avoir. Et donc, l'objectif, c'est que les personnes puissent s'en sortir toutes seules, en fait. Ça, c'est vraiment le but.
Un très beau projet. Moi, j'ai vraiment envie d'en savoir plus, mais on va faire ça au fur et à mesure des différents podcasts qui vont revenir. On fera des rappels réguliers. On fera peut-être aussi un podcast sur ce sujet-là, précisément. Dernier rappel avant de commencer le sujet. Certains auditeurs vont nous découvrir dans cette première émission depuis un moment. Donc, certains ne t'ont pas écouté avant. On les invite à aller voir les précédents podcasts où tu expliques comment faire sa mousse à raser soi-même, son shampoing soi-même, son dentifrice soi-même, que faire de son marc de café. Enfin, j'ai encore en tête pas mal de nos échanges.
Oui.
Alors, certains pourraient se dire, mais qu'est-ce que ça fait dans un podcast sur les causes environnementales et la transition? Mais justement, repasser des habitudes de vie qui sont propres à ce que nos grands-mères et nos ancêtres faisaient, respectueux de la nature et de l'environnement, faire les choses soi-même, ne pas faire appel au grand circuit de consommation, c'est aussi une démarche de transition, une démarche écologique. Et voilà pourquoi on met cette rubrique en avant avec beaucoup de fierté.
Oui, exactement.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de aïe aïe aïe.
L'ail des ours.
Ah, c'est pas aïe aïe aïe.
C'est presque aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, aïe des ours.
Alors, bête hein, et honte, mais je ne connaissais pas l'ail des ours. Et tu me dis que c'est connu. Alors là, je me sens comme un idiot du coup.
Mais non, tu vas apprendre. C'est ça qui est bien. C'est la plante comestible à la mode et c'est pour ça que j'avais un petit peu envie d'en parler parce que justement, quand c'est à la mode, parfois, il y a un peu de dérive et donc c'est bien de remettre un petit peu un cadre sur le fait que c'est aussi une plante médicinale, qu'elle a des indications, mais donc aussi des contre-indications, et de refaire un peu le point sur tout ça.
Je me rappelle un prof de bio au nursing de Mons, dans mes études paramédicales, qui nous avait raconté une anecdote du genre, un docteur qui disait à une vieille dame, manger une pomme, c'est bon pour le cholestérol, et puis elle en avait tellement mangé qu'elle s'était posé des problèmes d'estomac.
Exactement.
Voilà, pour illustrer, c'est un peu ça.
C'est tout à fait ça.
L'ail des ours, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une plante, en fait, qui, outre avoir un intérêt gustatif...
Ça a le goût d'ail?
Oui, c'est un petit goût qui est proche de l'ail, mais aussi, je dirais, du cresson, par exemple, une plante un peu verte. C'est vraiment un subtil mélange entre les deux.
Entre cressonnette et ail.
Ouais, c'est ça, à peu près. Il y a plusieurs plantes que je situerais là, mais l'ail des ours est vraiment une plante qui a vraiment un très très bon goût, qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de choses maintenant, même au niveau industriel. Tu vas dans un supermarché acheter un morceau de fromage à l'ail des ours, ça devient courant. J'en ai trouvé dans un supermarché il y a pas plus tard.
On
ne
va pas les
jours.
Citer, on ne va pas leur
non,
faire leur
non,
pub.
Non, c'est pour ça que je dis supermarché et que je ne donne pas de nom. Mais dans les magasins bio, tu vas en trouver beaucoup. Tu vas trouver du pesto à l'ail des ours. Ça, c'est la méthode la plus classique de travailler et de conserver l'ail des ours, en fait. C'est vraiment le plus connu. Mais pourquoi déjà on l'appelle ail des ours? Tu te demandes.
Peut-être les ours adorent cette plante et grattent pour la bouffer.
Il y a une légende, en fait, qui raconte qu'à la sortie de l'hibernation, les ours allaient manger de l'ail des ours pour se purger et se réveiller.
Je pensais qu'ils disaient « je suis plus de la gueule, j'ai dormi pendant 3 mois ».
Mais ça, c'est bien. On sent pas de la bouche avec l'ail des ours, pour le dire poliment. Mais donc, non, il n'y a pas cette haleine qu'on peut avoir avec l'ail classique. Donc ça, c'est déjà un point positif pour l'ail des ours.
Mais un premier apprentissage pour moi.
Pour faire un petit peu quand même de cadre, hein, donc son nom latin, c'est Allium Ursinum. Je rappelle pourquoi c'est important.
Ça ne ressemble presque pas au nom.
Je rappelle juste pourquoi c'est important, les noms latins. C'est qu'en fait, dans les plantes et dans le langage courant, on peut donner plein de noms à une plante.
Ça, j'avais retenu d'un ancien podcast.
C'est vrai, hein, je l'avais déjà dit. Et donc, tu peux trouver le même nom pour différentes plantes ou plein de noms pour une seule plante. Et donc, la seule manière de pouvoir être sûr de savoir de laquelle plante on parle, c'est d'utiliser le nom latin, qu'on appelle le nom binomial, c'est le nom botanique, en fait, qui est universel et on utilise le même nom partout dans le monde. Donc, ça, c'est vraiment
une bonne façon de faire un distinguo.
Exactement. Elle fait partie de la famille des Aliacées. En fait, elle a été reclassée récemment. Elle faisait partie de la famille des Liliacées, dont font partie tous les ails, en fait, les ails sauvages, etc. Mais maintenant, ils ont vraiment recentré un peu plus. Il y a une famille qui est consacrée rien qu'aux alliums, donc aux ails. Donc, elle fait partie de cette famille-là.
Deuxième chose apprise aujourd'hui. Tu vois,
je vais t'en apprendre beaucoup, je crois. Et c'est une plante, en fait, qu'on va commencer à récolter maintenant. Donc, c'est une plante...
On est de saison. Alors maintenant, tu sais, il y a 2-3 semaines avant la mise en ligne du podcast...
Oui, mais ça collera.
D'accord,
c'est
ça
parfait.
Collera, parfait.
C'est une plante qu'on trouve généralement de mars à mai, à peu près.
On est début mars, donc on est dans les temps.
Elle commence à pointer le bout de son nez. Le mien commence à sortir ses petites feuilles dans mon jardin. Et c'est une plante, en fait, quand elle se plaît quelque part, elle pousse, elle y va, quoi. C'est en colonie.
Oui, mais quoi, on est envahi ou...
C'est presque ça. Oui.
C'est presque envahissant.
Si elle se plaît à un endroit, elle va envahir l'endroit. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on la retrouve, c'est par colonie, vraiment parfois sur des hectares complets. Mais il faut chercher l'endroit, effectivement, où elle va se trouver. C'est une plante qui aime bien les sous-bois, les forêts, les sols un peu humides. Et en fait, elle aime bien les sous-bois et les forêts parce qu'elle n'aime pas trop le soleil direct, mais elle a besoin d'un petit peu de lumière quand même pour se développer. Et à cette saison-ci, dans les forêts, il n'y a pas encore de feuilles. Et donc, elle profite vraiment du soleil qui traverse les branches des arbres pour relancer son cycle végétatif et commencer sa vie en printemps.
Moi, je trouve qu'elle ne porte pas bien son nom. Elle devrait s'appeler l'ail des fainéants parce qu'il n'y a pas à jardiner. Bon, j'arrête de lancer mes vannes.
Elle pousse toute seule, c'est bien.
Ouais, moi, c'est
ça, mais tu me connais, moi, je suis un peu... Dans mon travail, comme ça, je suis un peu partisane de la loi du moindre effort. Tout ce qui demande trop de travail, les gens ne le referont pas chez eux.
C'est respecter la nature. La nature ne nécessite pas d'effort. Normalement, on n'a pas bêché son jardin dans la nature pour manger.
Il faut accepter la lenteur de la nature et aussi la périodicité. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec l'ail des ours, c'est que c'est une période définie dans l'année, mais moi, je ne vais pas en consommer en dehors. Alors, il y a des méthodes de conservation, j'en parlerai un peu plus tard. Pour ma part, j'en consomme au moment où elle est disponible.
Pas mal.
Et c'est ça que je trouve ça intéressant. Parce qu'il y a tellement de plantes intéressantes qui sont comestibles qu'à un moment donné, en fait, on peut avoir tellement de diversité qu'on n'est pas obligé d'avoir la même plante toute l'année. Et ça, c'est bien. Parce qu'on trouve plein de produits à base d'ail des ours toute l'année dans les magasins. Mais moi, je trouve que c'est un côté pas intéressant dans la consommation. Ça, c'est,
Puis moi, je pense que chaque plante a son moment dans l'année.
Exactement, c'est ça. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître l'ail des ours? Déjà, l'odeur caractéristique. Si tu arrives dans un spot de cueillette d'ail des ours, ça va sentir l'ail. Tu vas le sentir tout de suite.
Mais ça sent l'ail classique?
Oui, ça sent l'ail. Ça sent l'ail entre l'ail et la ciboulette, j'ai
encore
envie de dire.
Encore une fois, ouais. Entre deux choses. Ouais.
Tu es vraiment, au niveau saveur et odeur, tu te situes entre ail, cressonnette, ciboulette, enfin, vraiment dans, ouais. dans ces odeurs-là. Un peu piquant comme ça, mais vraiment très intéressant. Les feuilles, en fait, sont, on appelle ça en forme de fer de lance. Donc, c'est vraiment des feuilles qui sont assez longues, pas trop larges, qui ont vraiment des nervures parallèles. Donc, c'est vraiment tout dans le sens vertical. Les feuilles sont assez fines, de consistance un peu comme la laitue. Et elles ont alors, ce qu'on appelle un pétiole. C'est quoi un pétiole? C'est une espèce de longue tige donc, qui sort du sol et du bulbe en fait, de l'ail des ours et qui va donner la feuille un peu plus loin. Donc, on dit qu'elle a un long pétiole, en fait. Ouais. Donc, une espèce de tige qui est de forme triangulaire. Donc, si on sent la tige entre les doigts, on va sentir qu'elle est triangulaire.
Ah oui, d'accord. Bah bon. Du coup, on a eu un rappel pour les étudiantes secondaires, l'étiole pour la biologie.
Oui, puis c'est important, et ça, j'y reviendrai, quand on récolte une plante, d'être sûr de ce qu'on récolte. Oui. Donc d'avoir des petits tips pour la reconnaître, ça, c'est vraiment hyper important.
Tu vas me parler de cette plante parce qu'elle a des particularités, j'imagine. Oui. Spécificité, d'ailleurs.
Tout à fait. Alors déjà, en cuisine, on utilise énormément. Pourquoi ? Parce qu'elle a une saveur très intéressante, très fraîche, qui va vraiment rehausser beaucoup, beaucoup de choses.
Plus que de l'ail classique, c'est ça ?
C'est très différent, en fait, parce que tu as le côté plus vert. Là, il y a vraiment ce côté caractéristique de l'ail, ce goût inimitable quelque part. Il n'y a pas autre chose qui goûte l'ail. L'ail des ours a ce petit côté aillé, mais ce côté ciboulette, cressonnette qui apporte de la fraîcheur. Ça rapporte de la fraîcheur que tu n'as pas avec l'ail classique, en fait.
C'est donc les grands chefs de cuisine apprécient cet ail en particulier.
Il est énormément utilisé en cuisine. Je te dis, c'est vraiment la plante comestible à la mode. On la voit partout. Tu la verras dans plein de restaurants.
Et qu'est-ce qui fait qu'elle est à la mode maintenant ?
Parce que c'est une des plantes comestibles la plus facilement reconnaissable aussi. Par son odeur, par sa forme, par vraiment ce qu'elle est en fait. Elle est vraiment très facilement reconnaissable. Et donc, c'est souvent une des premières par lesquelles on commence la cuisine sauvage. C'est vrai qu'elle a des côtés médicinaux, ça je vais y revenir aussi. Mais en cuisine, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser, comme je disais, à ce moment-ci. Pourquoi ? Parce qu'au niveau conservation, il n'y a pas beaucoup de méthodes efficaces. Le séchage qu'on pourrait utiliser pour les plantes aromatiques classiques, c'est pas intéressant. Pourquoi ? Parce qu'elle perd toute sa saveur au séchage. Et en plus, elle va perdre une partie des propriétés médicinales. Donc là, c'est pas une bonne chose. La congélation classique, non plus. Elle perd toute sa saveur, elle a plus aucun intérêt une fois qu'elle est congelée. Donc, c'est pas une bonne solution. La méthode la plus classique, c'est d'en faire un pesto. Alors là, il y a plein de recettes différentes.
Mmh, j'aime bien, moi, le pesto.
C'est délicieux. Moi,
je vais t'inviter
avec...
pour en faire un atelier pesto ici, hein, je te dis déjà.
Mais je fais ça.
Je
fais des ateliers de cuisine, ça, j'adore. On cuisine, on va cueillir, on mange. Mmh. Ah ouais. Dès qu'on parle de manger, moi, c'est fou.
Bon, ça y est, t'as mis l'appétit à la bouche à tout le monde. Quand on nous écoute maintenant, ils vont tous se ruer dans le frigo. Où est-ce qu'il est, mon ail d'ours ?
Exactement. Donc, le pesto, c'est vraiment le truc le plus classique. Alors souvent, on voit des recettes à base de pignons de pin ou de graines de tournesol. Moi, j'aime bien travailler la graine de tournesol. D'abord parce qu'elle est plus économique que le pignon de pin. Et puis, c'est un truc qui vient de chez nous. Donc, c'est facile à trouver. Je mélange des feuilles d'ail des ours avec des graines de tournesol, avec de l'huile d'olive et du parmesan. Et là, j'en fais un pesto. Alors, il existe plein de concentrations différentes disponibles. Je pourrais vous mettre la recette sur mon site ou même la mettre en lien avec le podcast.
En dessous du podcast, on mettrait une recette pesto. Voilà. Bonne idée.
C'est une recette classique, je crois que je l'ai déjà partagée maintes et maintes fois sur ma page Facebook. C'est vraiment le truc le plus évident. C'est principalement les feuilles qu'on consomme, mais on peut consommer les fleurs aussi. Un autre truc que j'aime bien faire, c'est ciseler l'ail des ours, le mettre dans des bacs à glaçons et mettre de l'huile dessus, de l'huile d'olive. Et tu congèles l'huile d'olive et ça te fait des glaçons d'huile d'olive à l'ail des ours. Et donc quand tu cuisines, tu utilises ça dans ta préparation et ça rajoute ce goût d'ail des ours.
Trop fort. Et là, ça conserve du coup.
Et là, ça conserve bien. Mais parce qu'elle est enfermée
dans
du gras.
Ouais, dans le gras.
C'est le gras qui va réussir à garder
les arômes,
les saveurs et les arômes. Exactement. Qu'une congélation classique va détruire ça. C'est beaucoup trop agressif pour la feuille qui est trop fragile. Donc, elle perd tout ça.
J'imagine que ce procédé, il fonctionne pour plein de plantes.
Pour toutes les plantes aromatiques. Ça, c'est un bon truc. Si vous faites pousser vos plantes aromatiques chez vous pour les conserver, c'est un super bon truc. Et moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans le bac à glaçons. Une fois que les glaçons sont faits, je mets dans des boîtes. Et donc, j'ai des boîtes de glaçons dans mon congélateur.
Par arôme.
Avec toutes les plantes aromatiques. Ouais. Le thym, le romarin.
Alors, celui qui me dit qu'il n'a pas appris un truc en écoutant ce podcast, c'est qu'il n'a rien écouté.
J'adore ça. Donner des petits trucs, ça c'est... tu sais bien, j'aime bien ça.
Et tu sais que, petite parenthèse, on sort du sujet une minute pour une parenthèse. Il y a une nouveauté dans nos projets, c'est qu'on vient de se mettre à faire des transcripts des podcasts. C'est-à-dire que les personnes avec des problèmes de surdité ou malentendants pourront avoir le contenu du podcast en lecture.
Mais ça, c'est génial.
Et on pourra choisir des passages du podcast avec une ligne de temps.
Tu sais ce qui serait sympa aussi, mais là je sors hautement du cadre, mais c'est de le faire en langue des signes à un moment donné.
Oui, avec la vidéo, on va y penser, c'est une très bonne remarque.
J'ai suivi des cours de langue des signes.
Bon, revois tes bases, revois tes bases, tu m'as challengé, je vais relever le challenge.
Je connais une interprète, super sympa.
Ok, on va fixer ça. Allez, on revient à d'autres sujets.
Oui. Donc au niveau médicinal, donc elle a aussi un intérêt. Elle a beaucoup de propriétés en fait. Je vous les donne un peu en package comme ça, mais c'est une plante qui est antiseptique au niveau intestinal et pulmonaire. C'est une plante qui a un côté préventif des infections.
En usage externe.
Même le fait de la consommer en alimentaire va être préventif des infections. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est un hypotenseur. Donc là, ça donne une indication aussi.
Ça descend à la tension artérielle.
Voilà. Ça donne une indication sur ses contre-indications aussi. Donc, il ne faut pas donner ça à quelqu'un
qui fait de l'hypotension, qui fait des soucis de tension artérielle.
Exactement.
On est bien d'accord.
C'est un fluidifiant sanguin. Donc, attention aussi, toutes les personnes qui prennent des fluidifiants sanguins ou toutes les personnes qui ont déjà un sang trop liquide ne peuvent pas trop consommer ce genre de produits.
Et on va le déconseiller aux hémophiles, donc.
Exactement, tout à fait.
Les hémophiles sont ceux qui ont un problème de sang qui ne se coagule pas en cas de blessure, qui continuent de saigner.
Exactement.
On va vulgariser un petit peu
les
termes.
Alors, c'est aussi un bon dissolvant de l'acide urique. Alors, l'acide urique, c'est quoi ? C'est quelque chose qui peut apparaître au niveau du corps quand on a un problème d'équilibre de l'acidité et qui va former des petits cristaux, principalement au niveau des articulations, et qui va gripper les articulations. Et ça peut avoir plein d'autres conséquences négatives au niveau des reins aussi. Mais donc, c'est intéressant parce que ça va dissoudre un petit peu ces cristaux d'acide urique. Donc ça, c'est chouette aussi au niveau de ses propriétés. C'est un tonique et un stimulant général et même sexuel.
Aha.
Ça, c'est petit clin d'œil au podcast sur les aphrodisiaques naturels.
Mais j'ai pensé à toi parce que récemment, j'ai un partenaire de l'ASBL qui s'appelle Love Health Center à Bruxelles. Mm-hmm. Et ils font des podcasts sur la sexualité. Ils ont fait récemment un podcast avec Claudia Kaiser qui conseille sur l'alimentation et qui fait le lien entre l'alimentation et la sexualité.
Mmh.
Et c'est aussi un petit clin d'œil qu'on a fait. Il y a certains aliments qui ont un effet non seulement aphrodisiaque, mais surtout sur les hormones.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, l'aphrodisiaque, c'est un effet, mais ce qui est derrière, en fait, l'alimentation, c'est que dans tout ce qu'on mange, dans tout ce qu'on boit, dans tout ce qu'on consomme, il y a un moment ou l'autre un effet dans le tube digestif, dans le système digestif, qui aura un impact au niveau de la sécrétion des hormones.
Oui.
Et tout ça est lié. Donc, un petit rappel utile.
Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme mode propriété ? Donc, c'est un bon vermifuge et contre les parasites intestinaux. Donc, on va pouvoir aussi le consommer pour un bon équilibre à ce niveau-là.
Par exemple, on a mangé une viande un peu mal cuite, une viande de porc mal cuite, ça peut aider ?
Ça peut aider si jamais il y a un prémisse de parasites qui pourrait s'y trouver. Ça pourrait aider en tout cas à ce que ça ne se développe pas, ça c'est certain.
D'accord.
Et alors, une chose intéressante aussi, c'est un anti-vieillissement parce qu'il contient en fait des antioxydants. Très sympa. Donc, en fait, il y a plein de trucs intéressants sur la
guise. Restez beau gosse.
Il y a plein de trucs intéressants qu'on ne soupçonne pas et on le consomme parce que c'est la plante à la mode, mais en fait, on ne sait même pas ce qu'elle fait au niveau médicinal. Et donc, je trouve
une fois, la mode a du bon.
Oui, ah oui. Franchement, c'est une plante extraordinaire. Par contre, elle est un peu victime de son succès. Et c'est là aussi où je pense que c'est important de remettre un peu un cadre quand on travaille avec les plantes sauvages en cuisine. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il y a plusieurs règles à respecter quand on est un bon cueilleur. C'est d'abord de respecter le spot de cueillette, comme on dit, donc l'endroit où on va prélever la plante, de déjà s'imaginer qu'il faut, on peut en consommer, mais dans le respect de l'endroit où on cueille aussi, il faut assurer la pérennité de la plante.
Mais il ne s'agit pas de saccager les lieux pour que finalement elle ne puisse plus pousser.
Exactement, donc on ne va pas
c'est
commencer...
C'est un peu comme une pêche excessive.
Oui, tout à fait. On ne va pas commencer à arracher les plants, déjà on va couper la tige ou la pincer entre les doigts pour pouvoir couper la feuille, mais on ne va certainement pas commencer à arracher les feuilles et retirer du coup tous les bulbes qui garantissent la pérennité de la plante.
Oui, tout à fait. Bonne remarque.
Il y a ce côté-là. Il y a aussi le côté, on ne va pas non plus cueillir à outrance et ne pas consommer tout ce qu'on cueille.
Donc, finalement.
Voilà,
la culture du gaspillage
tout
qui a trop duré chez nous.
Il faut cueillir de manière raisonnée et ne cueillir que ce dont on a besoin. D'où l'intérêt de trouver un spot de cueillette où on peut retourner quand on en a besoin, en fait.
Parfait, ça.
Ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui est important, c'est d'être sûr de soi. Parce qu'en matière de cuisine avec les plantes sauvages, il y a toujours le danger de se tromper. Et quand on se trompe, ça peut être très grave. Les confusions possibles avec l'ail des ours, ce sont des plantes qui sont toxiques, voire mortelles. Et donc, il faut faire super attention. Ça, c'est dans tous les cas où on travaille avec des plantes sauvages, que ce soit pour la cuisine ou pour le médicinal, il faut faire super attention et on ne cueille pas si on n'est pas totalement sûr de soi à 100%.
Et tant qu'on est au conseil de sécurité, on va rappeler que sur le site, tu as rédigé un texte qui met en garde en disant « voilà, je donne des conseils, je ne suis pas médecin ». En cas de problème de santé, toujours consulter son médecin, faire appel à la médecine traditionnelle d'abord.
Oui.
Et puis le reste, c'est de la curiosité, du plus, du fun. du plaisir. Exactement. Et une transition intellectuelle et pratico-pratique.
Tout à fait, donc c'est hyper important d'avoir conscience de ça. Alors au niveau des confusions possibles, on pourrait la confondre avec le muguet, mais je pense que dans nos régions, on connaît quand même bien le muguet. La grande différence, c'est que le muguet n'apparaît pas exactement au même moment. Il est plus tard, il est plus vers le mois de mai. Donc là, on est un petit peu décalé par rapport au moment de la sortie de la plante et de la floraison.
La nature a bien fait ça.
Oui, c'est ça. Et souvent, quand le muguet sort, l'ail des ours est en fleur. Et on ne peut pas confondre la fleur des deux. La fleur de l'ail des ours, c'est une espèce de boule d'étoile, comme ça. C'est très joli, d'ailleurs, c'est une magnifique fleur, et qui est comestible et donc très intéressante pour décorer les plats. Si on a envie de faire une jolie assiette, on peut utiliser la feuille.
Bon, ceci dit, je ne pense pas qu'on risque d'être très malade en mangeant des fleurs de muguet.
Eh bien, si, figure-toi.
Si, c'est vrai.
C'est très toxique, voire mortel. Donc, c'est très dangereux de consommer du muguet.
Bon, ben, je fais l'idiot, mais finalement, c'est bien que je le fasse.
Non, mais c'est bien, oui, non, tout à fait. Et beaucoup de gens ne savent pas ce genre de choses.
Quel est le danger du muguet? Donc, carrément la mort.
C'est mortel, oui. Ça peut être mortel,
ah,
tout
ouais.
à fait. La grande différence, c'est qu'aussi que la feuille est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus large en son centre, et elle est ce qu'on appelle engainante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la feuille va entourer un petit peu la tige, le pétiole, tandis que dans l'ail des ours, pas du tout. La feuille n'est pas du tout engainante, elle commence, la base de la feuille commence le long de la tige et la feuille commence. Il n'y a pas d'endroit où ça se confond. Tandis que dans le muguet, on a vraiment cette feuille qui entoure la tige, en fait, à un moment donné. Ça, c'est la grande différence. Et c'est aussi une grande différence avec la colchique, qui est aussi une plante avec laquelle on pourrait confondre l'ail des ours, mais qui est aussi très toxique, voire mortelle. Donc là, il faut faire très attention.
Qu'oubliez la chanson colchique dans les prairies.
Ce sont les deux plus grosses confusions possibles.
Mais les plus dangereuses.
Voilà, les plus dangereuses. Quoique quand on connaît bien l'ail des ours, c'est difficile de se tromper. Déjà, il y a l'odeur qui est caractéristique.
Bah oui.
Mais le danger, c'est que quand, au moment où on récolte, notre doigt commence à sentir l'ail des ours. Et donc, on ne sent plus la différence. Donc, c'est vraiment important d'observer chaque feuille qu'on cueille et de ne pas se tromper à ce moment-là. La dernière confusion possible, c'est avec les arômes. C'est une famille de plantes qui pourrait ressembler vaguement, mais c'est très vague. Donc, je pense que si on se trompe, c'est qu'on est vraiment une quiche. Pour le dire gentiment, c'est pour rire que je dis ça, mais... Voilà, quand on s'est un petit peu intéressé à l'ail des ours, je pense qu'on ne peut pas se tromper. Donc si on a vu une photo d'ail des ours, si on a déjà vu la feuille à quoi elle ressemble, on ne peut pas se tromper.
On mettra des photos de toute façon avec l'article, ça aidera les auditeurs à reconnaître l'ail des ours.
Exactement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, peut-être simplement au niveau de ses contre-indications.
Oui.
Donc je rappelle, comme elle est hypotenseur, on va faire attention si on a des problèmes au niveau de la tension. Fluidifiant sanguin, donc de nouveau aussi faire attention si on a des problèmes, soit si on est sous fluidifiant, soit si on a des problèmes de coagulation. Donc
ou
ça,
hémophilie et autres.
Voilà, exactement. Et on va faire attention si on a une hypersensibilité de l'estomac. Elle peut être mauvaise si on a une hypersensibilité de l'estomac ou si on en consomme en grande quantité. Mais ça, de toute façon, on va éviter. Et on évite pour toute plante, en fait. L'excès nuit en tout, mais dans les bonnes plantes comestibles et médicinales aussi, ça peut nuire d'avoir un excès là-dedans.
On gardera donc la balance au centre.
J'avais envie de terminer par vous donner une petite recette que j'adore.
Allez, vas-y, go.
C'est en fait...
Elle va encore te donner à la bouche, on va faire du surpoids.
Là, vous
on va falloir faire un podcast pour perdre du poids.
Vous allez avoir faim. Hein. Moi, ce que j'aime bien faire, et c'est un peu plus tard, c'est juste avant la floraison de l'ail des ours, je vais récolter en fait les boutons floraux. Et je vais faire une préparation comme des câpres. Donc, je vais mettre en bocal avec du vinaigre, du sucre, des aromates. Je vais laisser dans le bocal pendant un bon bout de temps. Et puis, je vais le consommer comme des câpres. Avec un américain, c'est super bon. C'est délicieux. Non, avec n'importe quoi, c'est
si
super
j'ai bonne
bon.
Mémoire des podcasts précédents, encore une date, tu devais m'inviter chez toi à manger. Donc, je vais remettre ça dans mon agenda.
Oui. Très bon aussi, simplement, dans une salade. Faire une salade composée avec même des plantes sauvages.
Ou des mélanges avec des choses plus fraîches, comme des pommes et des choses comme
exactement.
Ça.
Exactement. Mais ce petit capre de bouton floral... C'est vraiment très bon et je vous mettrai aussi la recette comme ça.
Ah, bon, je vais avoir du mal de rester sérieux. J'ai faim. Tu m'as donné de l'appétit.
C'est pour ça que j'ai mangé avant de venir.
Ah oui, d'accord, toi tu triches. Ben voilà, écoute, je crois qu'on a fait le tour du sujet. On va quand même rappeler l'adresse de ton site internet, c'est la moindre des choses.
Alors c'est l'entre-deux-herbes avec un A et le chiffre 2.be.
Voilà, on rappelle l'antre comme l'antre des sorcières.
Et si vous ne trouvez pas, vous tapez juste Julie Bernard Herboriste sur Facebook ou sur Google et vous allez me trouver.
Voilà, et sur notre site, c'est pareil. Donc de toute façon, on insiste, on va demander aux auditeurs qui découvrent ce premier épisode d'aller écouter les précédents parce qu'en fait, il y en a d'autres et vachement intéressants aussi.
Il y en a plein.
Et on ne reviendra pas sur les mêmes sujets. Donc ça, c'est une certitude. Voilà, si vous avez aimé ce podcast, eh bien, il y a une chose très simple à faire qui est un remerciement pour Julie, mais pour moi aussi, et qui ne coûte absolument rien. C'est un like, un comment et un partage de ce podcast. C'est super important. C'est vraiment un très beau cadeau que vous nous feriez. Si maintenant vous avez envie d'aller plus loin dans la générosité, sachez qu'on peut faire des dons depuis peu, depuis notre site de l'ASBL, donc de podcastfactory.org, un onglet donation. Et alors je vous invite à visiter le site de Julie et de faire aussi un petit tour sur son site, sur les nombreuses activités qu'elle propose, les nombreux ateliers et les consultations individuelles. Voilà, du service VIP, on vous retrouve pour un prochain épisode. Merci.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
You're listening to the Podcast Factory.
Ce projet podcast est un projet créé par l'ASBL de Podcast Factory.org et sponsorisé par Transforma Bruxelles Innovation Playground.
You're listening to the Podcast Factory.